prédécesseurs. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter le père Joseph-Marie Verlaine. Joseph-Marie Verlaine est un prêtre catholique, moine de Saint-Joseph et curé de 19 paroisses autour de son monastère. Il a fait des études scientifiques et notamment un doctorat en chimie nucléaire. Alors, je suis déjà impressionné avant qu'il commence à témoigner. Et après son doctorat, il s'est orienté vers d'autres horizons. Et donc, il va nous parler ce soir de sa conversion. Lapsus révélateur. Joseph-Marie Verlaine est belge, je tenais à le préciser. Avant de lui céder la parole, je propose que nous nous tournons vers la Vierge et que nous lui confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie.
Bonsoir à tous, frères et sœurs. Nous avons chanté « Rendez grâce au Seigneur » et c'est ça qui compte, bien plus que, c'était quoi encore, la chimie nucléaire. Ce soir, on est tous des enfants du bon Dieu pour rendre grâce de ce qu'il a fait dans notre vie. Et si je veux parler ce soir de moi, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de ce que la miséricorde de Dieu peut faire dans la vie d'un galopin. Alors, je vais commencer, je vais remonter très haut, puisque j'ai 65 ans et je ne peux pas parler des événements qui sont passés quand j'avais 20 ans. C'est vieux tout ça. J'ai été éduqué dans la religion chrétienne. Oui, j'étais un chercheur de Dieu qui l'avait trouvé parce qu'il avait reçu, avec le lait maternel, j'avais su la foi. Et j'étais vraiment heureux auprès de mon Seigneur comme servant de messe. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai de ma jeunesse, c'est au pied de l'autel du Seigneur. Et puis vient la grande tempête, mai 68, pour les plus anciens parmi vous, enfin plus anciens, comme je ne suis pas Mathusalem, vous vous souvenez quelle révolution ça a été, interdit d'interdire. Et oui, ça disait bien ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on ne voulait plus d'autorité, plus de paternité, on ne voulait plus d'institution, on ne voulait plus d'un Dieu qui ait une parole normative pour notre vie. Parce qu'on voulait libre. Rendre compte à personne, faire ce que nous voulions, comme nous le voulions, quand nous le voulions. Vous avez compris que l'Église en a pris pour son grade dans cette époque-là. C'était malvenu d'encore être chrétien. J'ai été pris dans ce grand mouvement, ce grand chamboulement. J'ai essayé de résister un petit peu, mais on nous disait tellement que si vous voulez vivre librement et pleinement humainement, il fallait lâcher la pitié religieuse, que j'ai fini par la lâcher. Simplement, et ça, c'est pas ma faute, c'est inscrit en moi et en vous aussi, puisque vous êtes là. J'étais un chercheur de Dieu. Nous le sommes tous, hein. Le pape François, ils ont écrit dans sa dernière encyclique, qui est écrite à quatre mains, hein, comme toutes les symphonies de piano, hein, avec Benoît XVI, nos deux papes ont écrit cette encyclique. Il le souligne combien nous sommes tous des chercheurs de Dieu, souvent qui l'ignorent. Et c'est dangereux parce que quand on l'ignore et qu'on ne dirige pas sa barque vers la bonne finale, vers le bon port, on risque de devenir idolâtre, de diviniser ce qui n'est pas Dieu. C'est ce qui va m'arriver. J'ai donc lâché la béquille religieuse, t'entendais la béquille de la foi. Et comme j'étais un chercheur de Dieu, je me suis dit, mais ça ne va pas, il manque quelque chose dans ma vie. Et j'ai repris mon bâton de pèlerin. Mais il n'était pas question de retourner vers l'Église catholique, mon Dieu, pas à cette époque. C'était aussi le moment où les gourous des Indes sont venus en Europe. La nature a horreur du vide. Et comme on faisait le vide de la religion chrétienne, ce vide a attiré les gourous de l'Orient. Et il y en avait un qui avait une bonne tête, avec de longs cheveux blancs, le sari blanc, un beau sourire. Marie-Chimaccio, qui c'était un gourou de l'époque, il proposait une méditation transcendantale. J'ai essayé, je me suis dit, mais il y a quelque chose là-dedans. J'ai approfondi, j'ai médité plus que ce qui était convenu, si bien que j'ai dû prendre un peu de recul et je suis allé voir le gourou en question. Il m'a trouvé sympathique, je l'ai trouvé sympathique, et il m'a choisi comme son disciple. Attention, ce n'est pas le disciple au sens chrétien, Jésus en choisit 72, ce qui veut dire de tous les peuples et de toutes les nations, faites des disciples. Le gourou en choisit un, qui l'accompagne partout, qui se lève avant lui, qui se couche après lui, qui connaît toutes les techniques spéciales qu'il enseigne, qui est son confident, il n'en a qu'un. Le gourou a réfléchi et puis il a dit d'accord, je te choisis comme disciple. Et puis j'ai fait le tour du monde, j'exagère pas, au moins 3 fois, dans les bagages du gourou. Je vais hélas très vite parce que vous imaginez, il y aurait des livres à raconter. Mais surtout, au-delà de ces voyages un peu partout, j'ai passé de longs mois dans les ashrams, les Himalayas, tout en haut, là, la frontière tibétaine. Je n'ai pas vu beaucoup d'Européens là-bas. Et j'ai pu approfondir la doctrine de l'hindouisme et du bouddhisme, et surtout les pratiques qui conduisent à cette autre expérience. Pourquoi je dis autre? Mais parce qu'heureusement qu'il n'y en a que deux. Je dis, nous sommes des chercheurs de Dieu, mais on a l'impression qu'il y a 1000 chemins devant nous. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Au commencement, avant le Genèse 3, c'est-à-dire avant le péché, on n'avait pas ce problème, parce que nous étions dans la lumière de la grâce. Et Dieu, nous le connaissions mieux que nous-mêmes. Et il nous connaissait mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous le connaissions mieux que nous-mêmes. On était dans la lumière de Dieu. Puis là, il y a eu, tournez la page, le chapitre 3 de la Genèse. Malheureuse page qu'on aimerait bien arracher. Triste matin brumeux où le serpent va jeter son poison, le péché des origines. Et nous voilà aveugles, tournant le dos à Dieu sans le savoir, à tâtons, comme ça. Où il est ce Dieu? Où il est? Parce que nous sommes créés à son image. Son empreinte est en lui, nous. Et nous voulons le retrouver. Mais par où aller? Nous sommes des aveugles. Comme le Bartimée à la porte de Jéricho. Hein? Alors ceux qui crient « Jésus, aie pitié de moi !» Ah ben, ils sont du bon côté. Parce que le chemin pour retrouver la lumière, c'est Jésus, chemin, vérité et vie. Mais si vous tournez le dos à Jésus comme j'ai fait, sur quel chemin vous prenez-vous? Mais sur l'autre chemin. Alors l'autre chemin, c'est celui qui est le plus spontané, je dirais. Comme nous sommes aveugles sur les choses de Dieu, nous avons les yeux ouverts sur ce monde. Oh, qu'il est grand, qu'il est beau. Et c'est clair, qu'est-ce que c'est puissant. Et les printemps qui reviennent et les fleurs. Ah, c'est divin tout ça. Le naturalisme. Diviniser la nature. Confondre la création, la créature et Dieu. C'est pas vraiment étonnant quand je ne vois plus le Dieu créateur transcendant, que je ne vois plus que ce monde qui est tellement beau, tellement grand, que j'aurais tendance à dire, mais il est là Dieu, c'est ça Dieu. Voilà les deux chemins. Ou bien le chemin où Dieu est Père transcendant, il nous appelle et nous allons vers lui par le chemin du Christ. La montée est dure. Le chemin le plus facile, c'est de rester en bas et de diviniser la nature. Mais nous sommes idolâtres. Alors, le chemin du naturalisme que j'avais pris, c'est ce second voie. Il n'y en a que deux, je répète. C'est donc là-bas, je me trouve dans ces ashrams, que faisions-nous? Et quelle est la doctrine? Ce que je viens de vous dire, tout est divin. Tout, tous les ordres sont divins. La plante, l'animal, l'homme, les pierres, tout participe à Dieu, tout émane de Dieu. Tout ça, c'est fait partie de cet unique être divin. Mais alors dites, nous en sommes pas mal de Dieu ici présents, ça fait un peu beaucoup, non? Oui, c'est justement cela. Il n'y a qu'un être divin, je ne peux pas dire Dieu, parce que Dieu est une dimension personnelle. Il n'y a qu'une énergie divine qui se manifeste dans la pluralité des êtres. Et notre individualité est une illusion. Donc les exercices de yoga, mais ce n'est pas le yoga comme on dit vulgairement, hein, ça comporte des exercices physiques, des exercices respiratoires, de concentration, c'est toute une école, ont pour unique but de peu à peu résorber le jeu personnel jusqu'à ce qu'il s'éteigne, qu'il disparaisse. Puisque le divin est une énergie impersonnelle, il faut retourner en amont de ma dimension personnelle. C'est une voie régressive vers le sein de la mère nature dans lequel je m'enfouis, je m'enfonce jusqu'à disparaître en tant que sujet personnel. J'ai pu vivre ces expériences. C'est curieux que le Seigneur m'ait permis de vivre ces expériences-là. Ça s'appelle le samadhi, le moksha, le nirvana, vous avez entendu ces termes. C'est cette expérience d'illumination de cette tradition au moment où le jeu disparaît complètement. Il n'y a plus qu'une expérience, un acte d'exister. Alors, ce divin qui est une énergie, ça peut nous paraître bizarre. Permettez-moi de faire une parenthèse. Vous savez bien que ce que j'ai vécu il y a 35-40 ans maintenant, nous sommes toujours dans cette ligne-là. Le christianisme est toujours décrié. Comment vous êtes chrétien? Oh, je voudrais vous réveiller, le Moyen-Âge est fini, hein? Vous êtes encore dans cette institution obsolète, dans cette hiérarchie qui vous écrase, où est votre liberté, etc., etc., etc. Eh bien oui, notre monde qui continue à repousser le Père de Jésus-Christ, Jésus et son Église, mais il n'a pas d'autre alternative que ce que je vous décris. C'est ce naturalisme que vous entendez prêcher partout, même par les grandes instances internationales. Hein. Je citerai M. Boutros-Ghali, qui était président de l'ONU et qui, dans un discours bien connu, faisait l'apologie du naturalisme tel que je vous l'écris. Et Al Gore, le vice-président qui a reçu le prix Nobel, demandait explicitement qu'on retourne vers une spiritualité pré-chrétienne. D'accord ? C'est la tendance contemporaine. Il y a une certaine écologie qui n'est qu'une sacralisation de la terre, une certaine, c'est de l'écologisme, je ne suis pas contre l'écologie, c'est de l'écologie, sacralisation de la terre. Alors, il y a une dimension mystique, c'est la route que j'avais prise, se plonger dans ces énergies pour rencontrer Dieu, le divin, entre guillemets. Mais attention, il y a d'autres voies qui se nourrissent sur le même fond. Une voie très intellectuelle qui a beaucoup de succès, l'ésotérisme, la gnose, sous ces différentes formes. Me sauver moi-même, mais pas en suivant Jésus. Jésus est un maître, mais il n'est pas plus Dieu que moi. Je suis Dieu, il est Dieu, nous sommes Dieu. Mais si Jésus dépassait devant, ce n'est pas un sauveur, les ésotérismes. Et puis enfin, donc, une dimension mystique, une dimension intellectuelle, et une dimension pratique, l'occultisme. Ces énergies soi-disant divines, eh bien, et si on les utilisait pour transformer les événements, la nature, les personnes, le monde, je viens de définir la magie. Et ça, Dieu sait si cela a du succès aujourd'hui, à la frange du christianisme et parfois dans le christianisme. Ce que j'essaie de vous dire, ça appartient à une autre sphère, à un autre monde. Ça appartient à ce monde. Ceux qui ne partent pas sur le chemin du Christ vers la Jérusalem d'en haut, ceux qui restent en Jéricho d'en bas, on leur offre cela, une voie mystique, une voie ésotérique, une voie magique, pas de souhait. Mais là, vous êtes dans les énergies, maintenant, dans les temps Dieu. Je ne savais pas à l'époque, je ferme ma parenthèse. Je me retrouve donc dans ces ashrams à faire ces exercices, à plonger. Mais vous me dites, mais quel est l'intérêt d'être là, de se noyer dans ce nirvana? Il faut écouter Bouddha. Bouddha disait... La vie est souffrance, il n'a pas tort. Certes, il n'y a pas que cela, mais il y a quand même beaucoup de pages de souffrance dans notre vie. Et si vous voulez sortir, éradiquer la souffrance, il faut éradiquer le désir, car vous souffrez parce que vos désirs ne sont pas comblés. Très bien, M. Bouddha, comment je fais pour éradiquer mon désir? Moi, je suis un être de désir. Je peux vous faire autrement. Il dit, tu es un être de désir. Il suffit de barrer le « tu ». S'il n'y a pas de sujet pour verbe désirer, tu ne désireras plus. Et il n'y aura plus de sujet pour verbe souffrir non plus. Voilà pourquoi cette voie attire. Je dis, c'est une voie régressive. Je retourne dans le sein de la nature. Le je ne se conjuge plus. Je ne suis plus responsable de ma vie. Et chouette, je ne peux plus souffrir. J'avais un trouble. Parce que je me suis rendu compte que je ne peux plus conjuguer le verbe souffrir, mais du coup je ne peux plus conjuguer le verbe aimer. Et ça me posait problème. Et pourtant, si je suis cohérent, si moi je suis une illusion, et si l'autre est une illusion, alors l'amour est une illusion. L'amour se vit à deux, c'est un échange de deux personnes qui s'accueillent et se donnent réciproquement, librement. Or, si je suis une illusion et tu es une illusion, notre amour est une illusion. Ah, je pourrais vous parler, donner des témoignages de cause, mais je ne vais pas y rentrer parce que j'ai 25 minutes. C'est étonnant d'entendre cela. Quand je feuillette Saint Jean, je trouve dans sa première lettre « Otios agapeistin ». Dieu est amour. Alors, s'il est amour, il n'est pas une illusion. Je cite cela pour vous dire combien les voies sont divergentes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ce sont des voies totalement divergentes. La voie chrétienne est une voie d'extase, sortir de moi vers cet autre qui m'appelle. La voie de l'immanence est une voie d'enstase. C'est une voie où je vais à l'intérieur, où je ne trouve aucun autre, je trouve dans les profondeurs de mon être, je communie à cet acte d'exister, c'est tout. Nous ne sommes pas dans la même orbite. Alors je vivais cette expérience, et puisqu'on me l'a demandé d'en parler quand même, et puisque nous sommes dans un lieu marial, je me souviens, au moment de plonger dans, je devrais dire plonger, dans cette expérience dont je ne peux pas vous parler, puisque celui qui vous parle ici, le sujet personnel n'y était pas, cette expérience de mystique naturaliste, il m'est arrivé plusieurs fois de voir une sorte de vision en flash, un visage de femme, extrêmement triste, belle mais triste, et qui pleurait en me regardant. Et ce qui me frappait, c'est qu'elle avait une balafre sur la figure. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et comme j'étais sur le seuil de cette expérience, je lâchais prise et tout disparaissait. Et plusieurs fois, ce visage est revenu. Et je ne comprenais pas quelle était la tristesse de cette femme qui me regardait avec les larmes qui coulaient. J'ai continué à vivre cette expérience, à méditer, jusqu'au jour où un naturopathe français est venu rencontrer le gourou. Il était chrétien et il devait passer par moi puisque j'étais le disciple. Il devait passer par moi pour avoir un rendez-vous. Et en attendant le gourou, comme il parlait français, j'en ai pas profité pour tailler une barrette avec lui parce qu'on ne parlait pas français auprès de ce gourou, bien sûr. Alors il me demande, mais dites, avant de venir et de suivre le gourou, vous étiez chrétien ou vous avez été baptisé? Je dis oui, j'ai été baptisé, j'ai été chrétien. Et puis il m'a posé une question qui exactement, je n'ai pas fait exprès, le thème de votre session. Il m'a dit, mais Jésus pour vous, qui est-il? Pour vous, qui suis-je? Ce qui s'est passé après est très difficile à exprimer, c'est inexprimable. Simplement, cette petite phrase, cette question, a rejoint le « pour toi, qui suis-je » que j'avais entendu quand j'étais gosse. Je lui dis, il a fait mon bonheur, ce Jésus, et j'avais lâchement, lâchement trahi. Et là, cette question, c'est comme si le souffle de Dieu a soufflé sur les braises de mon baptême et que le feu a repris. Je ne sais pas combien de temps l'expérience a duré. Je suis tombé à genoux. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait nuit, le monsieur n'était plus là. Ça a duré longtemps. Le Seigneur a permis que je le rencontre. Oh, il ne s'est pas imposé à moi. Au début, je me suis dit, après, en revoyant cette expérience, c'est par discrétion, par respect, qu'il ne s'est pas posé devant moi. Et qu'il était derrière moi. Après, j'ai compris, pas tellement longtemps, mais je dis, mais non, tu n'as rien compris. Tu dois te convertir et te retourner. Il fallait qu'il reste là pour que moi, je me retourne, je change de direction. Et si Jésus est-il là à dire, non, mais c'est bientôt fini, là, les vacances? Non, pas du tout. Pas un mot de reproche, rien du tout. Simplement, cette même souffrance que j'avais lue sur ce visage de femme, une immense souffrance, un regard plein d'une tendresse infinie, si je devais le traduire en mots, ce serait « Mon enfant, combien de temps vas-tu encore me faire attendre ?» Une immense tendresse, mon cœur a fondu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai su beaucoup plus tard que ça s'appelait la contrition. On souffre énormément parce que je me suis rendu compte dans l'instant. Ne me demandez pas pour comment j'ai su que c'était Jésus. Ça ne se pose pas comme question. C'est une évidence. Il était là, plus présent, plus vivant que moi ici maintenant ce soir. Et je répète pas l'ombre d'un reproche. Rien du tout. Les larmes, c'était des larmes de souffrance parce que j'ai compris que j'ai fait souffrir l'amour infiniment plus que je pourrais jamais réaliser. Et c'était des larmes de joie parce que j'avais trouvé celui que je cherchais au bout du monde, dans le vide. Le psaume dit, ne me cherchez pas dans le vide. C'est lui qui est venu à moi. Mais c'est toujours Dieu qui vient à nous. Nous sommes la seule religion au monde qui prétend que c'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est notre fierté. Nous avons séduit Dieu. Et comme l'époux, il cherche son épouse. Ici, le cantique des cantiques. Il fait des petits câlins, là, et ça. Nous faire désirer par Dieu, c'est ça, un temps de retraite. Nous faire désirer par Dieu, c'est la meilleure solution pour le désirer, lui, après. Il se faisait mendiant de mon amour. Il m'a fait plonger dans cette miséricorde, cette tendresse de Dieu infinie. J'aurais voulu encore y être. Mais tout, c'est qu'on ne pouvait pas en rester là. C'est ce qu'on a appelé, en hébreu, c'est ce qui s'appelle le recette de Dieu. J'ai su beaucoup plus tard, ça. Et puis tout à coup, en un instant, j'ai été mis sur mes pieds. Mais réellement mis sur mes pieds, tout bon. C'est le amen de Dieu. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, Dieu n'est pas une grand-mère tombée dans une affectivité un peu infantile. Dieu n'est pas non plus un terrible Dieu que vous. Non, non, il est recette. Il est infinie tendresse, mais il est aussi infinie exigence. Il peut être infinie exigence parce qu'il est infinie tendresse. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin d'un Dieu fort. Quand nous disons amen, ça veut dire c'est solide, je peux construire ma vie sur la fidélité de Dieu. L'amen, c'est Jésus. C'est lui le fidèle. Et dans cette force, cette exigence, c'est sa fidélité, sa force qu'il met à notre disposition. Mais comme il sait combien nous sommes faibles, nous avons besoin de cette miséricorde. Il est exigeant parce qu'il sait que quand on tombe, il nous ramène, il nous relève. Et bien sûr que j'avais compris ce qui me restait à faire. Ce n'était pas ma place au bout du monde, là où j'étais. J'avais trouvé celui que je cherchais. Je répète, non pas dans le vide, dans l'absence du jeu, mais dans un vis-à-vis, dans la réponse à un Dieu qui appelle, qui est toujours en chemin vers l'homme, pour que l'homme puisse trouver le chemin vers Dieu son Père. Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, il marche avec chacun de nous. Et dans une retraite comme ça, c'est un temps particulier, justement pour se poser, comme on vient de vous le dire, pour découvrir cette présence. Il est toujours de lui qui a l'initiative. Depuis que l'homme a péché, que dit Dieu à Adam lorsqu'il vient le soir au jardin? Yo Hashefa, où es-tu? Et depuis lors, Dieu à tous ses enfants les appelle en leur disant, où es-tu? Reviens, reviens vers moi. Alors je suis donc reparti de là-bas, bien sûr, rempli de cette révélation, c'est bien le mot que je dois employer, qui a rempli mon cœur et dont je vis encore aujourd'hui, qui m'a rempli tout entier, bien sûr. Mais je dois vous dire deux mots sur la suite, et là, j'aimerais bien terminer ici. Mais vu le monde dans lequel nous vivons, je dois dire deux mots de plus, surtout qu'on n'a pas encore dit que je n'ai plus que 2 minutes, alors je continue. Je suis rentré en Belgique, de Belgique reparti, en France parce que bien. J'avais plus rien. J'avais plus qu'un attaché caisse avec mes papiers, mais j'avais tout, puisque j'avais celui que j'étais cherché au bout du monde. Simplement, je ne savais pas quoi faire avec cette expérience. Quand même, vous avez entendu un gars qui fait de la recherche scientifique, qui part aux Indes, dans des ashrams, qui fait des expériences intenses, que Jésus vient sortir de son ashram et qui se retrouve en Europe. Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup, j'avais besoin de me poser avec quelqu'un qui puisse m'aider à intégrer tout ça, à faire le point, à faire l'unité. J'ai fait l'erreur de ne pas aller sonner chez mon curé. Ou celui qui avait été mon curé, il est nilo tempore, parce que j'avais quand même une sérieuse rupture. Je n'ai pas osé. J'aurais dû lui dire, monsieur le curé, est-ce que vous avez 5 minutes, j'ai 2 heures à vous parler. Je n'ai pas eu le courage. C'était une énorme bêtise. Parce qu'en cherchant une oreille attentive, j'ai trouvé. Ou plutôt, ils m'ont trouvé. J'ai trouvé un groupe qui parlait en même temps de Jésus, en toutes les 2 phrases. Vous m'entendez bien? Et dans leur livre, toutes les 2 lignes, beaucoup plus que ces chrétiens, vous savez. Et qui en plus parlait d'énergie, de karma, tout ce que j'avais vécu aux Indes. Alors je me dis, mais chouette, je vais pouvoir mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Vous savez bien que ça ne marche pas. Hein? J'étais tombé sur un groupe ésotérique, mais je ne le savais pas, particulièrement puissant, qui m'a récupéré sans rien me dire pour parler de Jésus. Et qui peu à peu m'a conduit, c'est un groupe ésotéro-occulte, qui m'a invité, qui m'a initié à des pratiques occultes, sous prétexte que Jésus m'avait donné des charismes particuliers. Et quand on ne sait rien sur rien, quand on n'a pas eu la formation nécessaire, on se fait prendre au piège. Et voyez la suite. Je mettais en garde de ce qu'on propose en bas. Me voilà tout chrétien converti que j'étais, sincèrement, vous savez. J'allais tous les jours à la messe, je disais mon chapelet, je me traîne mon temps d'adoration. Vous savez, le bébé chrétien, comme on en voudrait 13 à la douzaine. Et malgré ça, je me suis laissé enfermer dans ce traquenard de l'ésotéro-occultisme, sous de bons prétextes. Hein. Pourquoi je vous raconte ça? Mes frères et sœurs, peut-être que vous êtes allés un jour à un guérisseur, vous avez vu la belle statue de la Vierge qu'il avait derrière lui. Vous mettez toutes les statues que vous voulez, si ce que vous faites ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous, les statues ne sauront pas vous nous sauver. Et oui, j'étais de bonnes intentions, mais j'étais dans une ignorance coupable. Car le chrétien n'est pas supposé ignorer la parole de Dieu qui met en garde contre toute forme de pratique ésotérique, magique, occulte, spiritisme. Et toutes ces choses, c'est explicitement dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas supposés l'ignorer. C'est les garde-fous que Dieu met pour que nous ne tombions pas dans le précipice. C'est une ignorance coupable. Et me voilà parti dans ce chemin-là. Est-ce que ça marche? Mais je vous assure que ça marchait. Mon Dieu, vous avez entendu parler des guérisseurs philippins? Oui, on se célèbre. Bon, on faisait des trucs de ce type-là. Hein. Même à des choses de ce genre-là, vous savez. Mais bien sûr que ça marche, les guérisseurs. Il n'y a pas de problème. Les coupeurs de feu, mais bien sûr que ça marche. Mais dites pas le contraire. Mais qu'est-ce qui marche et qui fait marcher dans tout cela? Ça, c'est une autre question. Comme les résultats étaient tellement extraordinaires, je n'ai pas le temps de vous le dire. Mais ça marchait tellement bien, précisément parce que je venais des Indes. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent cette terminologie, tous mes chakras étaient ouverts, et donc j'étais le parfait petit médium, prêt à intervenir sans problème. Et les autres l'avaient vu, c'est pour ça qu'ils m'avaient récupéré. Alors à un moment donné, j'ai même été contacté par les fameux esprits. Vous savez que les chamans travaillent avec des esprits qu'ils contactent et qui leur donnent les formules des plantes et les chemins qu'il doit faire pour guérir. Maintenant, c'est tellement connu de mon temps. Il y a 30 ans, on ne parlait pas de ça. Donc, le travail des chamans, ils ont leur connaissance, leur savoir, plus exactement, par l'intermédiaire d'esprits, les esprits de la nature qu'ils peuvent nommer. J'ai été contacté par ce genre d'entité. Mon Dieu, mais là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que je savais bien que Jésus chassait les esprits. Ils m'ont calmé, ils m'ont dit, mais ce n'est pas des esprits mauvais, c'est des anges guérisseurs. Ben, tiens, mais quoi encore? Ben, un ignorant raconte ce qu'on veut. Et puis, le Seigneur en a eu assez pour une deuxième fois. Un jour, j'étais de passage à Paris, et je m'arrête à midi pour avoir l'Eucharistie. Tous les jours, j'allais à la messe. Vous m'entendez bien? Si j'insiste, c'est parce qu'aujourd'hui, trop souvent, des chrétiens me disent « Ah mais non, je vais à la messe et tout ça, donc pour moi, je ne cours aucun danger. » Ou bien je vais voir tel guérisseur et il ne court aucun danger parce qu'il va à la messe. Mais non. Il faut que notre vie soit cohérente. Et si je proclame Jésus est Seigneur, mais que je ne fais pas ce qu'il me demande, je vais entendre la condamnation de Jésus. Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. C'est dans l'Évangile, ce n'est pas moi qui le raconte. Hein. Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, je ne vous connais pas. J'ai une cohérence qui manque. Je me trouve donc dans cette Eucharistie, et au moment de l'élévation de l'hostie, j'entends ces fameux esprits guérisseurs, ces anges guérisseurs, blasphémer honteusement la présence réelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent la présence réelle. Ça, c'est un point pour eux, sauf qu'ils la blasphèment, mais ça, c'est pas pour moi du tout. J'étais pétrifié, vous imaginez l'expérience. Je vais à la sacristie et je dis à ce beau prêtre, pendant qu'il enlève ses ornements, je lui raconte mon histoire, c'est tout ce qu'il me dit. Ça ne m'étonne pas. Et je me souviens que je lui ai dit, mais vous, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous étonner alors? Et il me répond, ça ne m'étonne pas, je suis l'exorciste du diocèse. Mais là aussi, frères et sœurs, je vous le raconte pour que vous soyez attentifs et le son va en tirer. Cela veut dire que j'allais tous les jours à la messe. Mais les esprits se tenaient à carreau. Ils savaient très bien qu'il ne fallait surtout pas réagir pour ne pas mettre soupçon dans ma tête. Mais devant l'autorité de ce prêtre exorciste, ils n'ont plus pu se cacher. Ils ont été obligés par Dieu à se dévoiler. Vous avez compris que la suite n'était pas particulièrement agréable. J'ai évidemment déposé tous ces pouvoirs occultes. J'ai découvert en un instant que j'avais été trompé, que tout cela n'était pas des dons de Dieu ou des charismes, mais c'était des pouvoirs occultes que j'ai remis aux pieds du Seigneur. Et puis il y a eu une série de prières d'exorcisme, de délivrance vigoureux pour me libérer de tous les liens que j'avais contractés par ces pratiques. Puis quelques années de convalescence pour reprendre mes esprits et reprendre le chemin sur lequel le Seigneur m'attendait. Voilà, en quelques mots, ce double témoignage. Mais au fond, qui n'en est qu'un, hein, c'est ces deux voix. Il y a la voix droite, mais c'est vrai qu'elle monte fort. Cette voix de la confiance en Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Nul. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils peut le révéler. Jésus insiste. Est-il intransigeant, fanatique? Non, non. Non, non, pas du tout. Il est l'unique. Il est le Sauveur. Tout autre sont des brigands. C'est encore Jean 10. Il est le bon berger. Les autres sont des brigands. Alors, deux chemins. Aujourd'hui, le chemin étroit du Christ est de plus en plus décrié. Ne lui lâchez pas la main du bon berger. L'autre voie est large, oh oui. Et on vous offre des expériences mystiques extraordinaires qui font « waouh ». Très bien, vous pouvez l'avoir par la drogue aussi. On vous offre des pouvoirs merveilleux. Mais c'est une voie de perdition. Entre les deux, bien sûr, puisque vous êtes là, vous avez fait votre choix. Mais vous savez, un choix radical, c'est le choix de l'amour. Quand on aime, eh bien on se donne tout entier. Et on ne garde pas quelque chose pour à gauche ou à droite. Quand on garde quelque chose vers soi pour le donner à un autre, c'est déjà une idole. Et Dieu se retire. Il s'est donné, il s'est livré tout entier à moi. Chaque Eucharistie, tout entier, il se donne à moi. Tout qui est à moi est à toi. Que répondre d'autre, sinon ce que Jésus lui-même dit, Jean 17. Et tout ce qui est à moi.